Le musée de Chypre. Situé à Nicosie, le musée de Chypre, aussi appelé musée archéologique de Chypre, raconte l'histoire de l'île du néolithique à la période proto-byzantine. Le musée, tel qu'il apparaît actuellement, est opérationnel depuis 1935, lorsque le gouvernement anglais de l'époque fonde le département des antiquités et met en place la première législation en matière d'antiquités. Jusqu'à ce jour, n'importe qui pouvait très facilement obtenir l'autorisation de faire des fouilles et exporter les objets trouvés où il le souhaitait. En conséquence, de nombreux trésors de l'antiquité chypriote se trouvent aujourd'hui dans tous les grands musées du monde, tels que le British Museum à Londres, le Metropolitan Museum of Art à New York, le Louvre, ainsi que des musées à Stockholm et à Berlin. On peut même voir certaines de ces antiquités dans le musée archéologique de Constantinople. Il s'agit des trésors offerts par Luigi Palma di Cesnola, consul américain à Chypre lors du XIXe siècle, qui avait obtenu l'autorisation du sultan pour exécuter des fouilles sur l'île. La construction de l'édifice commença en 1908, en souvenir de la reine Victoria, à l'époque de la souveraineté britannique sur l'île. C'est un édifice rectangulaire, dont les salles se suivent en enfilade. Il est aussi doté d'une cour intérieure rectangulaire, un atrium, actuellement utilisé comme espace de stockage et de restauration des antiquités. Nous nous trouvons devant le portique du musée, qui rappelle la façade des anciens temples. Au-dessus du porche d'entrée, remarquons l'inscription dédicatoire. Sur la gauche, se trouve la boutique qui vend le guide du musée, des guides sur tous les sites archéologiques de Chypre, ainsi que des publications portant sur l'archéologie et l'histoire de l'île. Entrons dans le bâtiment, par le hall où se trouve la billetterie. Le musée compte 14 salles. Le parcours commence par la première salle à droite. La première salle est consacrée au néolithique, phase pré-céramique et céramique, jusqu'à la fin du chalcolithique, c'est-à-dire de 9000 à 2500 avant Jésus-Christ. Les fouilles, qui ont eu lieu de 1983 à 1990 à Akrotiri, au site d'Aeto Kremnos, ont révélé les restes d'éléphants et d'hippopotames nains datant de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Les outils en pierre, trouvés sur le même site, plaident en faveur d'une occupation au 9e millénaire avant Jésus-Christ, soit 2000 ans plus tôt que Kisonerga et Kirokitia. En outre, des fouilles commencées en 1993 à Paréclisia, sur le site de Chiluro Campos, ont mis à jour un village néolithique important datant de la période de 8200 à 7500 avant Jésus-Christ. La première et la deuxième vitrines présentent des objets en calcaire et en picrolite découverts dans ce village. Des fouilles qui ont aussi débuté dès 1989 sur le site du village de Milouskia à Kisonerga ont mis à jour des vestiges remontant au 9e millénaire. Les autres vitrines de la première salle sont consacrées à la civilisation néolithique et chalcolithique de l'île de 8500 à 2500 avant Jésus-Christ. Elles comportent des objets exceptionnels, des vases en pierre et en terre cuite, des amulettes, des ustensiles de ménage, des objets d'artisanat, des outils d'agriculture et des bijoux. Parmi ceux-ci, on notera la présence de vases en pierre néolithique, de pré-céramique de Kirokitia, de vases en terre cuite néolithique au décor peigné, Ktenisti, de Sotira et de Kirokitia, de bijoux de femmes du néolithique de Kirokitia en hématite, en cornaline et d'autres pierres précieuses, des vases chalcolithiques en terre cuite d'Erimi, avec le caractéristique décor linéaire rouge, de figurines cruciformes chalcolithiques en picrolite provenant du cimetière de Souskiou et d'autres sites de Paphos, et enfin, d'amulettes chalcolithiques en terre cuite de Lemba. Dans ce village, une figurine en calcaire unique de 32 cm de hauteur fut découverte en 1976. Il s'agit de la Dame de Lemba, qui date environ du 3e millénaire. Les premiers habitants de l'île, qui peuplaient ces villages, avaient créé de petites communautés près des fleuves pour répondre aux nécessités de la vie quotidienne. Ces gens sculptaient les pierres du fleuve pour produire des vases d'utilisation courante, des outils et des amulettes. Les fouilles dans ces villages, qui sont surtout situés sur la côte sud-ouest de Chypre, démontrent que ces peuples avaient développé une civilisation assez importante, qu'ils avaient domestiqué certains animaux, comme la chèvre et le porc, et qui cultivaient la terre. On a même trouvé des restes de céréales, de blé, d'orge et de raisin. Le village néolithique le plus connu est celui de Kirokitia, qui est situé à proximité de l'autoroute Nicosie-Limassol. Dans ce site, des travaux étendus ont révélé une communauté organisée avec une grande habitation circulaire et d'autres plus petites, comme l'indiquent les photos. Tout cela prouve que ces peuples avaient noué des relations, sans doute commerciales, avec les pays du voisinage afin d'échanger des produits. Ce fait est attesté par les outils en obsidienne, une roche qu'on ne trouve pas à Chypre. Les fouilles à Kisonerga, sur le site de Mosfilia, ont aussi mis au jour des objets très intéressants qu'on peut admirer dans la vitrine centrale. La photo montre le dépôt rituel tel qu'il a été trouvé. Il s'agit d'un vase en terre cuite, plein d'objets rituels qui sont exposés dans la même vitrine. Parmi les 56 amulettes lithiques et en terre cuite, remarquons la figurine de terre cuite représentant une femme accouchant, la perpétuation de la vie et la figure féminine, la fertilité et la maternité, semblent être les thèmes qui dominaient les convictions des Chypriotes du Néolithique. Entrons dans la salle 2, où l'on peut admirer des objets datant du bronze ancien, de 2500 à 1900 avant Jésus-Christ. La plupart des pièces exposées dans cette salle sont des vases et des offrandes trouvées dans les tombes de cette période. La plus grande partie provient de la nécropole de Vounous, un site à proximité de Bella Pais, situé dans la région occupée de Kerinia et de Denia. En général, ces vases témoignent d'une maîtrise avancée des procédés de poterie. Il s'agit d'exemples de céramique rouge, lustrée et décorée sur la surface de motifs linéaires incisés. Les vitrines sur les côtés de la salle exposent des vases votifs, des cruches à vin, œnokoé et d'autres vases plus compliqués qui étaient utilisés soit lors des cérémonies funèbres, soit en tant qu'objet personnel de la vie quotidienne enterrée avec les morts. Les objets les plus intéressants sont ceux de la vitrine centrale. Il s'agit d'objets mis à jour dans la nécropole de Vounous. À droite, on peut voir des figurines en forme de planchettes et des modèles, maquettes, de sanctuaires en terre cuite avec des scènes d'une cérémonie religieuse. Les symboles du taureau et des serpents sont au centre du culte de cette époque. Au centre de la vitrine, on peut voir une maquette de sanctuaire circulaire qui comporte des scènes représentant une cérémonie. Ce lieu de culte circulaire à ciel ouvert est entouré d'un haut mur d'enceinte qui est percé d'une ouverture formant une porte gardée de l'intérieur. Près de l'ouverture, il y a un personnage qui s'efforce d'observer en cachette la scène qui se déroule à l'intérieur de l'enclos sacré. Cette position indique l'impossibilité pour les non-initiés d'entrer dans le sanctuaire. D'autres personnages sont aussi présents. Un personnage assis sur un trône, d'autres situés dans un espace circulaire et une figurine agenouillée. On peut aussi voir des bœufs dans un espace clos, ainsi que sur les murs, il y a des représentations de serpents. Ces deux animaux évoquent la vie et la mort respectivement, une information importante sur les convictions religieuses au cours du bronze ancien. La même vitrine comporte aussi un modèle en terre cuite, représentant une scène de labourage datant de 2000 avant Jésus-Christ. À Chypre, les gens travaillaient la terre dès l'époque néolithique, et ce modèle est identique à celui décrit par Hésiode, comme à celui que l'on rencontre de nos jours dans la campagne chypriote. Bien sûr, le soc était de cuivre. La salle 3 expose une série continue de groupes exceptionnels de vases en terre cuite qui présentent toutes les phases d'évolution de la céramique chypriote du bronze moyen jusqu'à la fin de l'époque romaine, de 1900 avant Jésus-Christ à 395 après Jésus-Christ. Parmi ces œuvres remarquables, mentionnons les exemples les plus importants de chaque époque. À gauche, on peut voir des petits vases de formes variées datant du bronze moyen, de 1900 à 1650 avant Jésus-Christ. À décor géométrique peint, riche et original, des coupes profondes aux anses fourchues et à base cylindrique, des petites cruches dites « white painted » aux motifs symétriques, géométriques, incisées sur un engobe clair, et les vases dits « bass ring » à base en anneau avec leurs fines parois. La vitrine à droite accueille les fameux cratères, comme par exemple le cratère de Zeus ornée d'une scène de char, de poulpe, de la figure de Zeus et d'autres figures, des animaux et des plantes, ainsi que des vases à étriers, des calices, des pyxides, des rhytons et d'autres chefs-d'œuvre cypro-mycéniens du bronze récent, de 1550 à 1050 avant Jésus-Christ, ornés de représentations compliquées et harmonieuses, de figures humaines et animales, de motifs géométriques, de fleurons et d'autres motifs végétaux. Cette période est caractérisée par l'arrivée des premiers peuples grecs qui, dans une première phase, vinrent faire du commerce et échanger leurs produits contre des produits chypriotes, c'est-à-dire principalement le cuivre. Après la destruction de la cité de Mycène, les Mycéniens s'installent dans l'île et y apportent leur civilisation. La vitrine centrale, en face des objets mycéniens, expose aussi d'autres petits objets de la même période, mis à jour dans la cité antique de Kition, qui s'élevait sur l'emplacement de la ville actuelle de Larnaca. Cette vitrine est dominée par un objet remarquable, le rhyton, qui est en faïence recouverte d'une couche d'émail bleue et ornée de représentations d'animaux galopants, de chasseurs et de taureaux, ainsi que de spirales accolées verticales. Le rhyton date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. En avançant un peu plus loin, on peut voir les grandes amphores de la salle, comme l'amphore en bichromie exposée à part dans une vitrine centrale, nommée Hubar du nom de son donateur. Mentionnons également les œnoquets, les pots, les hydries, les calices, les petits plateaux, les petits vases zoomorphes et avimorphes, et toutes les œuvres d'art en céramique façonnées autour de l'époque cypro-géométrique, de 1050 à 750 avant Jésus-Christ, avec leurs décors riches, symétriques, peints, comprenant des lignes parallèles, des bandes, des cercles concentriques, des losanges, des carrés, des méandres, des fleurons, des lotus, des papyrus et d'autres motifs végétaux et géométriques. La même salle abrite aussi des vases de l'époque cypro-archaïque de formes plus ou moins similaires, de 750 à 475 avant Jésus-Christ, dominés par les œnoquets qui sont décorés dans le style dit « décoration dans le champ libre », Free Field Style, avec des représentations uniques en bichromie, formalisées et peintes de taureaux, d'oiseaux, de poissons et de motifs géométriques complémentaires. Dans la vitrine centrale, on peut admirer une série de vases élégants dont l'excellence technique est évidente. Il s'agit de vases attiques à figures noires et rouges, ornés de représentations inspirées de la mythologie et d'autres compositions de figures animales et humaines. Dans les vitrines droite et gauche, après les objets de la période cypro-archaïque, on trouve de petites œnoquets sans décor. Dans les vitrines droite et gauche, après les objets de la période cypro-archaïque, on trouve de petites œnoquets sans décor, recouvertes d'un engobe blanc soigné et des vases ornés de la figurine moulée de Corée posée sur l'épaule, de 475 à 325 avant Jésus-Christ. Suivent les lagini, jarre de vin, les amphores, les vases lacrymatoires et les vases à parfum de la période hellénistique, de 325 à 50 avant Jésus-Christ. Dans les dernières vitrines de la salle 3 figurent des coupes rougeâtres à surface polie et d'autres vases de la période cypro-romaine, de 50 avant Jésus-Christ à 395 après Jésus-Christ, à décors estampés, comportant des fleurons, des figures animales, des oiseaux et d'autres motifs. Dans ces dernières vitrines, les poteries sont importées des pays avoisinants, ce qui confirme les relations commerciales de l'île. La salle 4 abrite toutes les statues et les figurines votives de terre cuite provenant du sanctuaire d'Aïa Irini. Elles sont disposées en amphithéâtre, comme elles l'étaient à l'origine. Ces œuvres de coraux plastiques exceptionnelles qui témoignent de la culture profonde du sentiment religieux pendant la période archaïque, représentent des figures humaines, des chevaux avec leurs cavaliers, des groupes de taureaux et de personnes, des chars et des bateaux avec leur équipage, des centaures ainsi que plusieurs scènes de la vie quotidienne. L'élément dominant est la figurine humaine qui, en général, offre son modèle de terre cuite au sanctuaire pour être toujours sous la protection du dieu. Toutes ces figurines se caractérisent par un ton humoristique, et la plupart d'entre elles ont subi une influence artistique étrangère, notamment égyptienne. Il faut noter que parmi toutes ces figurines, il n'y en a qu'une de femme située au premier rang, au centre. Le sanctuaire d'Aya Irini fut exploré par la mission suédoise en 1929. Les fouilles ont livré environ 2000 figurines qui étaient placées en cercle autour d'un autel. La moitié de ces objets sont abrités au musée d'archéologie méditerranéenne à Stockholm. La salle 5 est consacrée à l'évolution progressive de la sculpture chypriote du début de la période cypro-archaïque jusqu'à la fin de la période romaine. L'exposition comprend plusieurs statues et reliefs en calcaire et en marbre. Il faut noter que l'île de Chypre n'a pas de marbre, donc la plupart des statues sont faites soit en calcaire, soit en terre cuite. Les statues de marbre sont rares et le marbre est importé. Les statues représentent surtout des dieux et déesses, des héros, des kauris et kaurés, des prêtres et prêtresses, des athlètes et des adolescents, des satyres et d'autres figures humaines. Les reliefs font le plus souvent partie de frises et de différents socles et montrent des représentations et des scènes mythologiques associées à des figures divines et humaines. Les plus importants, par ordre de présentation, sont les statues en calcaire datant du début du cypro-archaïque qui ont subi l'influence assyrienne et égyptienne, surtout en ce qui concerne le visage. Ensuite, il faut mentionner les statues en calcaire du VIe siècle. Parmi eux, les kauris et les kaurés, avec le sourire esquissé et les traits fins ioniens, occupent une place prépondérante, comme par exemple la statue en calcaire de Kouros, qui repose sur une base composée de lions. Les vitrines à gauche exposent des figurines en marbre, par exemple les figurines d'Aphrodite et d'Eros, ainsi que d'autres divinités. Suit la statue d'Hercule portant un globe. Plus loin, à gauche, on peut voir les têtes de statues masculines et féminines, datant du cypro-classique, avec les traits idéalisés, l'expression imposante et un arrangement très soigné des cheveux qui sont le plus souvent richement ornés. La superbe tête de statue féminine en calcaire, de grandeur naturelle, mise à jour dans le sanctuaire hellénistique d'Aphrodite à Arsos, est marquée d'une parfaite rigueur dans la représentation symétrique et idéalisée des traits fins du visage. En poursuivant, à droite, on peut voir trois figurines de lions et deux figurines de sphinx découvertes en 1997 dans la zone des tombes royales de Thammasos pendant les travaux annuels de conservation. Au-dessus, on peut admirer une présentation d'Amazonomachie en relief provenant du complexe de temples de Solon. À gauche, figure un exemple du style exceptionnel de la période classique. C'est la tête d'Aphrodite du IVe siècle mise à jour à Salamine. Plus loin, au milieu de la salle, on peut admirer la superbe statue hellénistique en marbre d'Aphrodite provenant du site de Soloï et qui démontre l'excellence de la technique statuaire de l'école d'Alexandrie. L'autel en calcaire, où sont représentées en relief les figures d'Aphrodite, de Déméter et d'Artémis, et la représentation du rap de Perséphone se trouve à la fin de la salle gauche. À droite, se trouve une stèle en calcaire sculptée des deux côtés. De côté, on peut voir la tête de Bacchus et au recto, une scène érotique. La salle 6 est consacrée aux statues en marbre et en bronze de l'époque romaine. On distingue la statue colossale en bronze de l'empereur romain Septime Sévère, de 119 à 211 après Jésus-Christ, de Kythroi, la moderne Kythréa, la tête d'adolescent en bronze de Soli et la charmante statue en bronze de Paphos, représentant Eros en train de dormir, qui rappelle le style statuaire de l'école d'Alexandrie. Cette salle accueille aussi des statues de divinités égyptiennes découvertes dans les temples de Soli. La salle 7 expose une large gamme d'objets raffinés datant du bronze tardif jusqu'au début de la première période chrétienne. Il s'agit d'armes, d'ustensiles, de supports et de figurines en bronze, ainsi que d'autres produits du travail du métal, de sceaux, de pendentifs en faïence et plusieurs objets d'art miniature. Il faut mentionner les supports, les bases de vases en bronze, par exemple le support exposé dans la deuxième vitrine à gauche, qui se distingue des autres supports à trois pieds puisqu'il est posé sur quatre roues et ses quatre faces sont ornées d'animaux. Ce support fut exporté illicitement par des trafiquants turcs qui ont essayé de le vendre en Europe. Cependant, les musées ayant été informés de l'histoire du support, en 1978, un musée allemand a averti le département des Antiquités de Chypre et l'objet a été acheté et rapatrié. Plus loin, dans la même salle, on peut admirer des monnaies, des produits d'art miniature, des bijoux et des ustensiles d'argent et d'or, des lampes en bronze et en terre cuite, et des objets en os, en ivoire et en albâtre. En outre, la salle abrite des vases en verre et d'autres objets, comme la figurine en bronze du dieu cornu, assimilée à Apollon Kératé dans Comie, le groupe en bronze de deux lions dévorant une vache, et la figure en bronze d'une vache, datant du Cypre classique et provenant du site de Soli. Sceaux et pièces de monnaie. Dans les vitrines suivantes, on peut admirer des collections de sceaux en pierre datant du deuxième millénaire, ainsi que des collections de monnaie provenant des royaumes chypriotes, avec quelques monnaies en or et en argent datant du 6e au 4e siècle. On peut aussi voir les tétradragmes en argent de Ptolémée, découverts en 1978 sous les mosaïques de la maison de Dionysos à Paphos durant les travaux de conservation. Bijoux en or et autres petits objets en or. Les dernières vitrines de la salle 7 à gauche exposent les bijoux en or datant du bronze moyen aux premières années chrétiennes. On peut voir des colliers, des anneaux, des boucles d'oreilles, des épingles, des bracelets, ainsi que le sceptre en or surmonté de la tête d'une chouette et de celle d'un aigle provenant de l'ancien Courion, daté du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, et des plats en argent de Lamboussa. En face, à droite, les vitrines exposent de petits objets et d'objets d'art miniature en albâtre, en ivoire, des vases en verre, par exemple des vases lacrymatoires et des vases à parfum, ainsi qu'une collection de lampes en bronze et en terre cuite. Il faut noter la manche de miroir en ivoire provenant de l'ancienne Paphos et datant du XIIe siècle. Au centre de la salle se trouve le passage qui mène d'abord à la salle 8, à droite. En passant par la représentation de l'entrée d'une tombe royale bâtie de Thammasos, on se trouve dans la chambre arrière qui ouvre sur la salle souterraine. Ici, on découvre la représentation de l'entrée d'une chambre funéraire appartenant à une tombe bâtie du 5e siècle à Pila. Pendant le néolithique, les tombes sont de simples fosses. Le corps est déposé en position contractée dans des trous creusés près de l'entrée ou à l'intérieur des habitations. Lors du bronze ancien, commence la tradition des tombes avec le dromos, long couloir et les chambres. Ce style d'architecture continue, avec certaines variantes, jusqu'à la période romaine. Au début du géométrique, l'influence de Léger est évidente. Les tombes monumentales, bâties, font leur apparition pendant la période archaïque, tandis que lors du Cypre classique, l'accent est mis sur la symétrie, qui connaît son apogée lors des périodes hellénistiques et romaines. Sur la droite, la salle 9 expose des sarcophages en pierre et en terre cuite, des urnes et des stèles funéraires. Le plus bel exemple en est la stèle funéraire en calcaire, où est représenté en relief un guerrier. La stèle provient de Lycie et date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Sur la gauche, la salle 10 est consacrée à l'écriture chypriote. On y trouve des tablettes d'argile et de bronze et plusieurs inscriptions sur des supports et des stèles en marbre et en calcaire. Ici, on peut suivre l'évolution de l'écriture et de l'épigraphie chypriote, du bronze récent jusqu'à la fin de la période romaine. À ce jour, le plus ancien exemple d'écriture date de 1500 avant Jésus-Christ et est inscrit dans la partie supérieure d'une petite tablette d'argile, mise à jour à Engomi d'Amorostos. Autres objets importants. Un cylindre d'argile, trouvé en 1967, qui porte une longue inscription gravée de 27 lignes. Et le fragment d'une tablette d'argile, trouvé en 1953, atteignant 9,5 cm de hauteur, 9 cm de largeur et environ 2 cm d'épaisseur, et gravé tant au recto qu'au verso. Ces objets ont été découverts sur le site d'Ancomie et datent de la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Un autre objet important, unique en son genre, a été découvert dans une tombe de la nécropole, de la période géométrique et archaïque, de Scalès, dans l'ancienne Paphos. Il s'agit de l'un des trois obélis, broches, en bronze, qui porte cinq signes clairement gravés en chypriote syllabique. En outre, on peut voir la copie d'une grande table de bronze en chypriote syllabique. La version originale est abritée à la Bibliothèque nationale de France, qui contient le texte d'un accord passé entre le roi Stasikypros et la cité d'Idalion d'une part, le médecin Onasilos et ses frères d'autre part, au sujet des soins à donner aux blessés de la guerre. Le roi et la ville règlent les honoraires soit en argent, soit en terre. Cet accord, de 470 avant Jésus-Christ, donne une idée de la situation politique dans la cité d'Idalion au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. En retrouvant le palier, on monte les escaliers menant à la salle 11, qui abrite des objets découverts dans les tombes royales de Salamine. Entre autres, il faut mentionner le lit en bois et le trône, revêtu d'ivoire, ainsi que les têtes de statues en argile qui représentent sans doute les membres de famille de Nicocréon, dernier roi de Salamine, et qui ont toutes les caractéristiques du style du sculpteur grec Lysippe. En outre, on peut voir un chaudron de bronze, unique en son genre, portant sur ses rebords des bustes de griffons et de sphinx, ainsi qu'une série de parties métalliques des chars, découverts dans le dromos des tombes royales avec des squelettes de chevaux. Selon la tradition, les chevaux ont été sacrifiés et déposés, avec le char du roi, dans le dromos devant sa tombe pour l'accompagner après sa mort. Il semble que la vie après la mort faisait partie des croyances des Chypriotes dans l'Antiquité. On est toujours dans la salle 11, le lit en face. À droite se trouve la bibliothèque du musée et à gauche la salle 12 où est décrite l'évolution historique de la métallurgie à Chypre à travers des photos, des représentations et d'autres matériels. Il est possible que le mot cuivre, cuprum en latin, est dérivé du nom de Chypre. L'extraction du cuivre commence en 3500 avant Jésus-Christ sans discontinuer jusqu'à nos jours. Le massif de Troodos est riche en gisements de minerais sulfurés dès l'Antiquité. Ici, on peut voir une représentation des anciennes galeries de mines et les outils utilisés pour l'extraction, la fusion et le traitement du cuivre. Plus loin, on peut voir plusieurs objets de bronze, comme le talent qui pesait 39 kg et était utilisé pour les échanges commerciaux de Chypre avec d'autres pays. C'était la monnaie de l'île pendant une grande période de l'Antiquité. La dernière vitrine expose aussi des moules utilisés pour la fabrication des flèches, des outils et d'autres objets de bronze de la vie quotidienne. Cette salle abrite aussi des expositions temporaires, fruit des dernières recherches du département des Antiquités ou des missions archéologiques étrangères à Chypre. On retourne à la salle 7 pour poursuivre vers la salle 13. Cette salle abrite toutes les statues en marbre trouvées dans le gymnase et le théâtre sur le site de Salamine. Il s'agit des statues de Némésis, d'Igeia, d'Asclépios, d'Aphrodite, de Zeus, du dieu fleuve, de Béléagre, d'Hermaphrodite, de l'Aphrodite accompagnée d'un dauphin, d'Artémis, d'Isis, d'Hercule et d'Apollon avec une lyre. Les photos sur le mur montre le site de Salamine en 1974, avant l'invasion turque. La dernière salle, la 14, expose des groupes de figurines en terre cuite datant de l'âge du cuivre, des figurines féminines en forme de planchette et des figurines de la déesse de la fécondité à l'enfant, Courotrophe, datant du Cypro-Mycénien. On peut voir aussi des figurines de chevaux, de cavaliers et de guerriers au bouclier datant du cypro-géométrique et du cypro-archaïque, ainsi que les figurines de tanagres datant du cypro-classique. En avançant vers la sortie, les vitrines de gauche contiennent des moules utilisés pour la fabrication des figurines et des scènes d'accouchement. Les figurines en terre cuite montrent l'importance de la déesse mère qui protégeait les femmes enceintes et témoignent de son rôle dans la vie du peuple. Dans la vitrine à côté, on peut voir des masques de théâtre en terre cuite et des figurines d'acteurs de tragédie et de comédie. Les grandes vitrines exposent des objets provenant de la représentation de deux sanctuaires à ciel ouvert fouillés à Ménico et à Kakopetria, dédiés à Baal, Amman et à Athéna, respectivement. Le parcours guidé est fini. On a mentionné les objets les plus importants du musée, qui, dans un espace assez limité, couvrent l'histoire de l'île du 9e millénaire avant Jésus-Christ aux premières années chrétiennes. Après cette brève description, vous pouvez visiter le musée et examiner de plus près les objets exposés.